Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante concernant l'importance de la rédemption. Le titre de notre numéro 55, le titre c'est « Les réunions » sur la guérison. Tout d'abord, je voudrais simplement dire merci Seigneur de m'aider par l'Esprit Saint qui me guide, qui m'inspire pour pouvoir dire ce message, cette étude d'une façon cohérente et que cela puisse aider ceux que tu veux préparer pour un ministère. Chers amis, cette série numéro 53, 54, 55 et numéro 56, ce sont des études très élaborées pour ceux qui n'ont pas l'habitude de chercher dans la Bible toutes les citations, bibliques au sujet de la guérison. Ces études très variées peuvent surtout être utilisées pour ceux qui ont reçu dans le cœur, dans leur esprit, de se préparer tout spécialement pour un ministère en plus de celui du salut, pour venir en aide pour ceux qui souffrent. Il est vrai que de nos jours, de plus en plus de gens souffrent. Dans les chapitres précédents, je voudrais plutôt dire dans nos CD précédents, ce serait plus juste de le dire, j'ai essayé de donner des simples conseils que, je l'espère, pourront aider le chercheur ou la chercheuse sur le chemin vers la santé. Pendant ces dernières années, j'ai essayé de suivre le conseil pour procurer les études pratiques pour ceux qui désirent aider les malades. Maintenant, il est temps de dire quelque chose au sujet de la préparation et de l'organisation de services de guérison et des méthodes de guérison qu'on y emploie. Je veux mentionner ici brièvement quelques critiques qui ont été faites concernant les cultes de guérison. Certains de ces services ont en effet été condamnés parce que quelques-uns auraient abouti dans l'émotionnel et voire même dans l'hystérie. On doit admettre, évidemment, que cela a été le cas. On dit du reste la même chose des revivalistes, les revivalistes, ceux qui militent et prêchent pour le réveil. Mais voyez-vous, c'est tout à fait déraisonnable de vouloir tout condamner pour les faiblesses d'une petite minorité. On ne condamne pas la profession médicale à cause des fautes et manques de certains médecins ou encore on ne condamne pas toute l'Église à cause des erreurs de certains pasteurs ou prêtres. Non, faisons attention, bien que, il est vrai que mon épouse merveilleuse est décédée il y a maintenant 25 ans par erreur et négligence médicale. Et cela peut donc arriver également dans notre ministère, le ministère de guérison. C'est vrai. Ne sommes-nous pas faillibles, imparfaits? La guérison fait partie intégrante de l'Évangile, n'oublions jamais cela. Depuis bien des siècles, la guérison divine n'a pas été pratiquée avec autant de laxisme ou de provocation comme on peut le voir aujourd'hui. Certainement, il est juste de dire qu'il y a plus de guérison aujourd'hui que pendant les premiers jours de l'Église. La méthode de Christ pour travailler avec les foules dans ses missions de guérison est très claire dans l'Évangile. Il y a des dizaines de fois qu'il a été prouvé, vraiment prouvé, qu'il a guéri les foules. Enfin, on peut dire que la plupart de son travail se faisait devant les gens et dans la foule. En effet, il y avait des fois, comme dans le cas de l'aveugle Bartimée, où Jésus a appelé les patients de se montrer pour que tout le monde puisse voir le miracle. Mais à d'autres occasions, il retira son patient de la foule, et cela à cause de l'incrédulité des spectateurs, parmi lesquels il y avait des scribes et des pharisiens hostiles. Jésus était entré en toute confiance chez Jaïrus pour ressusciter sa fille. On disait qu'il fallait faire toute la guérison derrière les portes fermées. C'est ce qu'on dit un peu partout, qu'il faudrait faire les guérisons, prier pour les malades, derrière les portes fermées. Mais ça, c'est en quelque sorte un mensonge. Car voyez-vous, dans le cas de Jaïrus, la fille, elle était morte, et elle ne pouvait donc pas venir à Jésus, c'est clair. Aussi pour rappeler l'esprit de l'enfant, Jésus avait bien entendu besoin de conditions parfaites pour pouvoir travailler. Il ne prenait avec lui que ceux qui avaient une foi suffisante. Et on le comprend. Pour des raisons similaires aujourd'hui, la plupart des serviteurs vont chez le patient si ce dernier ou cette dernière ne peut pas venir au culte. Il est vrai que la plupart du travail du serviteur est effectué dans le sanctuaire privé de l'Église. Mais il y a des moments où Dieu arrange des missions pour ranimer le don dans son Église qui refuse de faire appel à ce ministère. Une grande responsabilité repose donc sur les chefs de l'Église chrétienne. Il a été dit que les réunions de guérison étaient voire même dangereuses. Oh là là! Mais il est bien plus dangereux, me semble-t-il, de négliger une guérison selon l'Évangile et d'ignorer son commandement. Mais heureusement, beaucoup de personnes sont d'un haut niveau spirituel et sont favorables à des cultes de guérison, des cultes que nous préparons avec beaucoup de prières, vous pouvez en être certain, parce qu'on ne fait pas une chose de ce genre sans préparation sérieuse dans la prière, dans l'intercession. Ces pasteurs-là sont donc déjà, en quelque sorte, les instruments de guérison pour l'humanité souffrante. Avant une réunion, nous prions pendant des mois pour la préparation. Ce n'est pas quelque chose qui se prépare au pied levé. Donc c'est sérieux. Pour être sûr que les conditions puissent être correctes, le membre, on peut dire, ou plutôt le nombre des malades, tous ne sont pas des membres de l'Église, mais il y en a qui viennent, qui ne sont pas forcément des membres de l'Église. Alors le nombre des malades et des intercesseurs doit ou devrait être indiqué selon la capacité de l'Église. C'est vrai, les hôpitaux sont trop pleins, surtout de nos jours. Mais la plupart de ceux qui viennent pour la guérison divine, ce sont ceux qui sont abandonnés, qui sont incurables par les traitements de l'hôpital et de la science médicale. Bien que les réunions de guérison étaient longues, souvent sont longues, c'est vrai. Pourquoi ? Mais à cause du nombre de personnes. Plus il y a de personnes, plus la réunion va durer, forcément. Et peu d'entre eux semble être prêt pour la guérison, dans le sens guérison et salut. Il y en a, vous savez, qui voudraient être guéris sans comprendre qu'il faudrait aussi être sauvé, qu'il faudrait appartenir et vouloir appartenir à Jésus-Christ, de vouloir comprendre que le salut est encore un peu plus important, si pas de dire beaucoup plus important. À la fin, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas partir et rester dans le calme et dans la paix de la présence du Seigneur. Pas beaucoup étaient déçus. Même, voyez-vous, si les infirmes n'ont pas toujours tous été guéris, car tous ne sont pas guéris. Nous devons reconnaître cela pour beaucoup de raisons, dont certaines raisons nous échappent. Plusieurs disent qu'ils avaient reçu tout de même une grande bénédiction spirituelle, ce qui est souvent même encore plus important. Il y a des personnes qui ont voyagé des kilomètres pour trouver de l'aide. Je me souviens d'un parent reconnaissant qui avait vu le corps de son enfant se relaxer pour la première fois depuis sa naissance. Il disait que ça valait vraiment la peine. Ça valait la peine de voyager des kilomètres pour cela. Il y avait là une véritable unité entre les membres des églises, de ces églises qui étaient présents aux réunions et qui assistaient aux résultats positifs. Il y avait des gens de toutes dénominations qui étaient joints, qui étaient rassemblés dans l'amour et dans le service. Les différents pasteurs collaboraient tous ensemble. De travailler parmi les malades avait révélé vraiment les qualités merveilleuses de chacun de ceux qui faisaient partie du corps de Christ. L'importance du travail de la guérison dans le service du Christ est très claire, surtout quand on lit l'Évangile d'une façon attentive. Peu importe où Jésus allait, c'était son habitude de guérir toutes sortes de maladies. Les chapitres 11 en Saint Matthieu, chapitre 5 en Saint Marc, chapitre 9 dans le livre de Saint Luc sont pleins d'histoires de ces guérisons et de commentaires à ce sujet-là. Même si l'apôtre Jean donne beaucoup moins d'espace à cet aspect du ministère, il décrit tout de même beaucoup de miracles. Il dédie un chapitre entier à la guérison de l'aveugle. Ces faits-là suffisent à eux-mêmes pour prouver que la guérison et l'évangile sont unis. Évidemment, c'est la volonté de notre Seigneur que son enseignement et sa guérison soient pratiqués ensemble dans son Église jusqu'à la fin des temps. Le don de la guérison a été donné à ses premiers disciples, à ses apôtres. Alors je crois que beaucoup d'autres serviteurs de Christ ont reçu cet appel comme eux à travers les siècles. Je sais que c'est la volonté de Dieu que nous ayons la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. On peut donc voir que Dieu, notre Père céleste, qui nous aime, il nous aime d'un amour immesurable et il désire enlever nos imperfections. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Mais il y a tout de même une condition, et nous devons comprendre cela, c'est de marcher dans l'intégrité. Cela veut dire qu'on doit quitter le chemin des péchés, le chemin de l'égoïsme, et de marcher main dans la main avec Christ pour toute la vie. Chers amis, voulez-vous faire ce pas important aujourd'hui? Si oui, alors nous pouvons nous approcher comme un enfant de Dieu. Avec assurance, nous pouvons nous avancer vers le trône de la grâce et demander et recevoir sa guérison. On ne doit pas chercher la guérison pour les malades uniquement, mais à désirer de devenir un témoin vivant, oui, un témoin vivant de sa grâce, et que ceux qui voient le miracle donneront toute la gloire à Dieu. Christ a donné son commandement de prêcher l'évangile et de sauver le malade, corps et âme. C'est l'évangile pour l'homme complet, c'est-à-dire la santé du corps, la santé des pensées même, et la santé de l'esprit. Donc, de marcher dans l'intégrité n'est qu'une exigence morale. Mais on doit aussi obéir les lois de l'hygiène et du régime quand c'est nécessaire. Et sans trop d'indulgence, pour être tout simplement, en bonne santé. Il faut peut-être éviter certains aliments qui ne nous conviennent pas, ou éviter de fumer si on est asthmatique. Ce ne serait pas, on peut dire, un péché de jeter les cigarettes. Voyez-vous, les lois de la santé au niveau physique, au niveau mental et au niveau spirituel doivent, ou en tout cas devraient, être respectées. Si, surtout si nous voulons conserver la bonne santé, Dieu ne va pas corriger la conséquence de manière volontaire ou faite dans l'erreur, et cela sauf si on s'est préparé à coopérer avec lui par un changement de vie. Si je bois trop de whisky ou de vodka et que mon foie est devenu plutôt très malade, eh bien, il faudra que je prenne une décision sérieuse. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Un évangéliste a dit qu'après l'ouverture de la réunion, il avait lu un message biblique sur le texte de Jésus pleure. Jésus pleure. Ce que l'on pourrait trouver très étrange pour l'ouverture d'une réunion de guérison. Si j'avais opté pour mon propre choix à moi, j'aurais choisi le thème « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Mais la directive que j'ai reçue était très claire. Je ne pouvais que la suivre. Jésus pleura, c'est vrai. On ne croirait jamais cela. Jésus a vraiment pleuré. Par exemple, au sépulcre de Lazare, avant de le ressusciter de la mort, il a pleuré quand il a vu Jérusalem, les enfants de Jérusalem qui avaient totalement refusé son amour de la guérison, sachant qu'un jour, ils, au pluriel, confirmeront leur réputation négative d'avoir tué et d'avoir lapidé, pas seulement des prophètes, mais aussi en tuant leur Messie. Ceux qui essayent de faire son travail ne peuvent pas compter sur un meilleur traitement aujourd'hui, pas du tout. Car, sauf erreur, le Christ a dit, s'ils m'ont persécuté, moi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, eh bien, croyez-moi, ils vous persécuteront aussi. Je crois que Christ doit pleurer de beaucoup de choses qu'il voit commettre aujourd'hui. Ce matin, aux nouvelles, le speaker a dit que une responsable de haut niveau dans une ville aux États-Unis qui refusait de marier des homosexuels vient d'avoir été mis en prison. Et ils lui ont dit, vous demeurerez en prison aussi longtemps que vous refusez de marier les homosexuels, les lesbiennes, etc. Vous resterez en prison. Ça, c'est déjà la persécution des chrétiens. Et le pire est à venir. Ne sommes-nous pas dans les derniers temps? Ou est-ce que je dis une bêtise? Vous pouvez écouter toute la série sur 3xW Bible explique en un seul mot.ch. Et là, il y a toute une série sur les prophéties de la fin des temps. Et vous comprendrez que la dispensation de la grâce est terminée et que nous sommes maintenant au début de la dispensation des jugements. Bref, je ne veux pas vous bassiner avec tout ça. Vous pouvez le croire ou le refuser. Ne sommes-nous pas libres, encore pour le moment, de penser ce que nous voulons? Chers amis, l'absence d'amour, tel que l'avarice, l'égoïsme, le besoin accablant de toute l'humanité. Mais surtout, Jésus doit pleurer à cause de l'attitude. L'attitude de quoi? De qui? L'attitude de son Église à l'égard, pas seulement de la guérison divine, à l'égard de ces critères sérieuses qu'il a dicté, qu'il a annoncé, et pour certains, tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est à jeter à la poubelle. Mais Jésus-Christ lui-même ne l'a jamais jeté à la poubelle. Chers amis, le service de la guérison, par exemple, essaye d'édifier la vie de prière pour montrer l'efficacité et la puissance de la prière, c'est-à-dire de compter sur l'accomplissement de promesses splendides qui viennent de Dieu le Père par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, dans la foi, tout simplement. Mais après plus de 2000 ans, il y a beaucoup, beaucoup de pasteurs de son Église qui doutent et même qui refusent que le malade puisse être guéri en son saint nom. Une telle attitude est incompréhensible face à la déclaration claire et nette du Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Je prends cela de la version allemande, mais rassurez-vous, c'est à peu près pareil dans les autres versions. Imaginez, chers amis, la puissance de cette promesse, et nous prenons Christ par sa parole, et nous attendons que les grandes choses arrivent maintenant. Et elles peuvent arriver. Et elles arrivent réellement. Je le dis avec une assurance absolue. Pourquoi? Parce que j'ai vu des guérisons merveilleuses par la foi et par la prière. Je sais bien que ces promesses s'accomplissent aujourd'hui. Pourquoi alors demander, voyez, des choses que vous ne croyez même pas. Alors il y a des sceptiques qui disent, ne voit-on pas plus de grands miracles? Ne voit-on pas de plus grandes choses aujourd'hui? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est seulement virtuel? Parce qu'on ne lui fait à Jésus pas crédit d'accomplir sa grande promesse, mais on laisse la peur et on laisse la non-croyance bloquer carrément le canal de sa puissance. Il y a des gens qui limiteront la puissance de Dieu. Mais le Dieu qui a créé l'univers, il est le même Dieu qui a également créé mon corps. Et s'il peut maintenir l'univers dans un rythme parfait depuis le commencement du temps, sûrement, le même Créateur peut, si je me tiens à ses conditions, il peut restaurer mon corps en rétablissant et en reconstruisant chaque partie malade et en guérissant n'importe quelle maladie, qu'elle soit fonctionnelle ou organique. Je répète, le même Dieu qui a créé l'univers est le même Dieu, absolument le même Dieu qui a également créé mon corps. Et s'il peut maintenir l'univers dans un rythme parfait depuis le commencement du temps, sûrement, je crois que le même Créateur peut, si je me tiens à ses conditions, évidemment, il peut restaurer mon corps en rétablissement et en rétablissant et à reconstruire en reconstruisant chaque partie qui est malade dans mon corps et en guérissant n'importe quelle maladie, qu'elle soit fonctionnelle ou qu'elle soit organique. On ne peut pas et il ne faut pas limiter Dieu. Dieu, dont la puissance n'a pas de limite. Quand on croit en lui absolument, eh bien on sait qu'il n'a qu'à dire à un accroissement cancéreux, sois guéri, et ce sera fait. On m'a raconté l'histoire d'une femme qui mourait d'un cancer de l'utérus, qu'elle entendit une voix qui lui dit « Lève-toi et marche !» Elle répondit « Mais je ne peux pas. Je n'ai pas marché depuis des mois. » Une fois encore, elle a entendu les mêmes paroles, « Lève-toi et marche !» Et cette fois-ci, elle a obéi. Elle s'est levée du lit et elle a clopiné à travers toute la chambre. Et voilà que le cancer était loin. On peut évidemment douter. Et on peut dire, ça, je ne le croirai jamais. Ça, c'est impossible. Mais un tel miracle arrive, surtout quand on croit et quand on obéit Dieu. Mais un tel miracle n'est pas une exception. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Certainement, la puissance est dans chaque mot de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Mes brebis connaissent ma voix. » Par ce service de la guérison, beaucoup de gens ont appris à écouter cette voix interne dans la prière, et ou par la prière, sachant que c'est vraiment la voix de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ils remplissent de bon cœur ces conditions-là et ils s'abandonnent comme un enfant au Seigneur. Ils lui abandonnent toute leur vie et puis, comme des enfants de Dieu, on a tout le droit de demander et de recevoir la guérison complète. Gloire donc soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous donner, avant de terminer, quelques témoignages. Prenons le témoignage numéro 1. Depuis plusieurs mois, Monsieur F était très malade. Une maladie du diabète et du cœur affectait ses jambes jusqu'au jour lorsque la famille pensait qu'il allait mourir. Le chirurgien décida de lui amputer les deux jambes. Sa condition était si grave que même les os des pieds, se sont déformés et sortaient. Enfin, celui-ci avertit le chirurgien qu'il lui fera part de sa décision concernant l'opération après la visite du pasteur qui l'a fait transporter à l'église. Monsieur F raconta que dès l'instant où il est entré, où on l'a porté en quelque sorte dans l'église, il était sûr dans son cœur et esprit que tout irait bien. Quand les autres se sont empressés de venir pour ne rien manquer, parce qu'il y a toujours les curieux, il resta confiant. Confiant que le Seigneur le guérirait. Lorsque son tour arriva, il sentit la puissance de vie dans son corps et il dit à haute voix les mots suivants. « J'espère et je crois en toi, Seigneur Jésus, et j'espère et je crois en toi pour le plein salut de mon âme et de mon corps. » Après cela, il fut encore quelque temps très malade, mais quand les autres avaient des doutes, il continua de garder la foi et de remercier le Seigneur pour la guérison. Or, plus tard, il dit, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les jambes sont maintenant parfaites. Les os sont tout droits et il n'y a plus d'infection. Alors, je ne dois pas subir l'opération. Ne vous inquiétez donc plus de mes jambes. Eh bien, chers amis, exactement un mois après la réunion, il y a eu un service d'action de grâce. Et cet homme est venu et il marcha dans l'église. Il demanda il a demandé l'hymne suivant qui dit « Ayons confiance en lui, Seigneur Jésus ». Et il remercia Dieu pour sa guérison. Quand les journaux ont appris la nouvelle, ils commencèrent à le troubler. Un journaliste d'un journal du dimanche lui téléphona pour avoir les détails et il confirma les faits. Mais voici les meilleures nouvelles. La semaine dernière, nous avons revu M. F. encore une fois et 16 mois après cette réunion, il avait vu le spécialiste encore une fois, ce qui s'exclama « En effet, ce qui vous est arrivé, c'est un miracle. Toutes les raisons pour une opération ont donc disparu. C'est merveilleux et on peut dire « Gloire à Dieu ». Cet homme marche, il conduit même une voiture, il va à l'église à pied et toujours il est prêt à témoigner de la puissance du Christ de guérir. Un autre cas donné par le même pasteur, c'était celui d'une femme qui avait un accroissement sur le dos, dont on pensait qu'il aurait pu être mauvais. Le vendredi, cette femme avait reçu l'imposition des mains, tout simplement. Et le matin du dimanche suivant, eh bien, la douleur avait totalement disparu. Et l'accroissement avait également complètement disparu. Voici le témoignage numéro 2. J'assistais à une réunion de guérison à Southborough et je suis venu pour l'imposition des mains. Je souffrais d'hypertension et d'une maladie du cœur. Je dis bien que c'est un témoignage d'une personne importante. Je suis venu dans la foi que Dieu me guérirait parce que il m'avait conduit à venir d'une façon incroyable. Il n'y avait plus de billets et au dernier moment, il n'en restait qu'un seul. Aussitôt qu'on m'a imposé les mains, il me semblait que je n'avais plus du tout de souffle et que je recevais en quelque sorte carrément un choc électrique. Et là, je savais parfaitement que Dieu m'avait rétabli. Après 3 jours, je suis allé voir le médecin. D'abord, il ne voulait pas m'examiner. Il refusait de m'examiner, car il disait que ce n'était pas possible que je puisse aller mieux en si peu de temps après avoir été dans le même état pendant une quinzaine d'années. Car c'était les reins. Et il n'y avait pas de thérapie du tout. Alors, j'ai dit au médecin que j'avais la foi et que j'allais déjà beaucoup mieux. Alors il me dit, « Quoi ? Vous avez la foi en moi ?»« Non, 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 lui ai-je répondu. J'ai la foi en Dieu. Et sans un examen, je ne peux pas prouver que je vais mieux. » Il a dit, « Bon, pour vous satisfaire, je mesurerai d'abord votre tension, qui était toujours beaucoup trop élevée, mais cela n'en vaut au fond pas la peine. Imaginez combien j'étais heureux quand il m'a dit « Votre tension a baissé et l'arythmie du cœur a totalement disparu. » Pendant une seconde, je me suis demandé si ces instruments allaient vraiment prouver quelque chose. Alors, j'ai demandé à Dieu de s'en charger et il ne m'a pas laissé déçu. Voici un témoignage numéro 3. À Berkhamsted. C'est le témoignage d'un évangéliste. À mon arrivée en Angleterre, on m'a dit que l'église méthodiste à Berkhamsted n'était pas du tout favorable pour la guérison. Au dernier moment cependant, on nous a offert The Friends Meeting House. C'était un beau petit sanctuaire au centre de la ville. Il y avait là-dedans une pittoresque barrière pour répartir ceux qui ne vont d'habitude pas à l'église et les fidèles de l'église de l'autre côté. Nous sommes arrivés au culte pour voir le piano, le seul instrument musical sur place et qui tombait totalement en morceaux. Mais nos ennuis se sont estompés quand on nous a informé que les réparations seront faites et comme le bâtiment était petit, nous avons prévu une deuxième réunion le soir même. Dès le début de ce service, on sentait que Dieu était vraiment présent dans ce petit sanctuaire. Bien des personnes ont senti cette présence et cette puissance, et aussi il y avait une certaine chaleur. Il y avait là donc une grande paix spirituelle intérieure. Un des psychothérapeutes du lieu était venu au culte et il m'a dit, vous avez déjà aidé 3 de mes membres dans le culte de l'après-midi. Le premier avait des rhumatismes. Le deuxième avait un problème interne. Et le troisième était un cas d'arthrite. et tous ont été guéris. Alléluia. Voici le témoignage numéro 4. La guérison progressive. L'ostéomyélite de Miss MW à l'école. L'ostéomyélite. Je voudrais vous écrire pour vous dire combien votre réunion de guérison a influencé ma vie. C'est ce qu'a écrit Miss MW. Vous m'avez rencontré à Penzance en février dernier pour prier pour ma jambe et pour prier pour un bras qui était atteint d'ostéomyélite. Je ne sais pas si je prononce ce mot correctement. Gloire à Dieu. Le pied qui était totalement bloqué à la cheville, il est de nouveau flexible. La jambe est devenue beaucoup plus forte et l'épaule ne me fait plus mal. Mes parents, qui sont missionnaires, viennent de rentrer et ils sont absolument impressionnés de voir quoi, mais de voir les progrès que j'ai fait pour marcher. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout tellement fatigué comme je l'étais avant. En effet, je me couche à n'importe quelle heure et je me lève sans aucune peine à 7h du matin pour joindre le cercle de prière, ce que je ne pouvais pas du tout faire avant. Je remercie Dieu et je vous remercie, vous aussi, car vous m'avez montré la véritable puissance de Dieu dans ma vie. Quand on a la foi, eh bien Dieu prend tout à sa charge. Et je suis tellement heureuse aujourd'hui. PS, quand la jambe et le bras auront parfaitement guéri, je vous écrirai encore une fois pour vous en donner le récit. Cela prendra quelque temps, je crois. Mais je pense qu'il en vaut la peine. Ainsi pour moi, en tous les cas, voyez-vous, car le corps sera ainsi totalement guéri, ainsi que mon esprit, oui, également mon esprit, se renforcera par la merveilleuse possibilité que Dieu a permis pour moi. Oui, je dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et voici le témoignage numéro 5. La guérison du mal au rein par Madame G.T. J'avais mal au rein pendant plusieurs années. Et il y a 3 ans, on peut dire que un rein m'a carrément été enlevé par opération. L'autre rein a été affecté pendant quelques années et les médecins étaient très occupés, mais surtout préoccupés, comme on le dit, de mon cas, car ils pensaient qui avait aucune possibilité de rétablissement. Or, le 22 janvier, lors de la réunion, je m'abandonnais au Seigneur Jésus-Christ totalement. Le mercredi qui a suivi, j'assistais à un service de la guérison où Madame Salomon imposa les mains sur moi et je reçus la guérison. Le samedi de la même semaine, je visitais l'hôpital Helston pour y être examiné par un spécialiste. Un rendez-vous qui avait été arrangé auparavant. Le médecin observa que le rein était maintenant parfaitement guéri. Depuis ce jour-là, le même spécialiste a vérifié ce diagnostic sérieusement. Et je sais moi-même que je suis une nouvelle femme et je remercie Dieu, je le remercie pour la grâce merveilleuse que j'ai reçue. Voici le témoignage numéro 6. C'est la guérison de l'aveugle par procuration. C'est Madame Ige B. Voici ce qu'elle écrit. Vous serez heureux de savoir que mes yeux vont beaucoup mieux. Il y a 4 ans, l'oculiste de ma... Il m'a donné aucun espoir et il m'a dit que je serais aveugle dans environ 5 ans. Une maladie terrible des yeux. Or, en février, mon fils a participé à quelques rassemblements d'évangélisation. Il a demandé qu'on lui impose les mains pour la guérison des yeux de sa maman. C'est une chose incroyable, mais vraie. Je n'en savais absolument rien, dit cette mère. Mais voici que soudain, mes yeux pouvaient voir la couleur et les dessins des choses que je ne pouvais pas voir auparavant. C'est une chose incroyable. Or maintenant, je peux voir clairement même les petites fleurs sur la pelouse. Or, je ne les avais plus vues depuis des années. Et samedi passé, mon fils est venu. Il est venu me voir à l'hôpital qui se trouve à 15 kilomètres. Je lui ai raconté la chose merveilleuse qui m'était arrivée. Il a souri et il m'a parlé de la grâce merveilleuse qu'il avait reçue quand il avait demandé la prière en ma faveur. Les mots simples ne peuvent pas exprimer mes remerciements au Seigneur et à vous aussi. Mes remerciements viennent de mon cœur tout le temps. Et aujourd'hui, je prie pour vous, chaque matin à 7 heures. Voici le témoignage numéro 7 pour terminer notre étude d'aujourd'hui. Des témoignages variés. Pendant cette réunion-là, beaucoup de gens se sont levés pour témoigner de leur guérison. Une femme disait que sa sœur ne savait pas qu'elle s'était rendue à la réunion pour recevoir la guérison pour sa sœur qui avait le cancer de la poitrine. Elle nous a raconté que le lendemain, quand l'infirmière avait enlevé les bandages, le cancer avait totalement disparu, laissant un trou parfaitement propre. Aujourd'hui, la cavité est en train de se refermer. Un pasteur a témoigné de la guérison de 3 de ses paroissiens. Un homme qui ne se levait plus de son lit à cause d'une attaque. Il avait pu se lever de nouveau, ce qui a beaucoup surpris, pas seulement le médecin, mais également son épouse. Un autre qui avait la polio depuis l'enfance a raconté que la jambe a commencé à bouger. Un médecin a témoigné que le bien-être spirituel signifiait beaucoup plus que le bien-être physique dans beaucoup de cas. La conscience plus profonde de Dieu lui avait enlevé toute peur et les doutes se sont envolés. Amen. Amen. Chers amis, nous allons prier maintenant. Étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est plus que jamais sujet de tomber malade, raison pour laquelle le Seigneur désire que je vous soumette des prières qui sont inspirées par son Esprit Saint pour vous permettre à vous de les utiliser et de les adapter à votre situation personnelle. Prions donc ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, si grand et glorieux, souverain et juste, plein de grâce et de miséricorde, ô oui, je reconnais que je suis un pécheur indigne. Je me jette à tes pieds. Je viens devant ta majesté. Je plaide pour ta miséricorde et pour ta bonté. Merci, car tu es toujours et tu as toujours de la compassion pour tous ceux qui se repentent et qui écoutent les prières. Je te le demande, bénis tous ceux qui viennent à toi pour leurs besoins personnels, qui viennent à toi pour recevoir ta miséricorde et par la vertu de tes pouvoirs. Je demande ta grâce par le saint nom de ton Fils bien-aimé, qui règne avec toi, et au nom du Saint-Esprit, je dis, viens à leur aide par ta compassion et par ton amour. Viens pour les toucher de ta main guérissante maintenant. Amen. Amen.